Laudetur Jesus Christus.
La police de Hong Kong a interpellé ce matin 5 directeurs du journal pro-démocratie Apple Daily. Ils sont soupçonnés de collusion avec un pays étranger mettant en danger la sécurité nationale. La France, au chevet du Liban, une réunion internationale de donateurs est organisée aujourd'hui à Paris. Son objectif, soutenir l'armée libanaise qui est également touchée par la profonde crise économique qui ravage le pays du Cèdre. En Irlande du Nord, unionistes les républicains sont parvenus, non sans mal, à un accord pour maintenir une gouvernance partagée. Une nouvelle crise politique a ainsi été évitée dans la province, en proie à des tensions post-Brexit. 3h30 d'échange, une poignée de main et la volonté affichée d'aplanir les tensions, c'est ce que l'on peut retenir de la première rencontre hier à Genève entre les présidents russes et américains. Vladimir Poutine et Joe Biden ont évoqué un échange constructif, mais les sujets de discorde restent les mêmes. Éclairage à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Hélène Détombe.
Bonjour, une opération d'envergure de la police a été menée ce matin à Hong Kong dans les bureaux du journal pro-démocratie Apple Daily. 5 responsables ont été arrêtés au nom de la loi sur la sécurité nationale. Des articles ont été publiés par le journal appelant à des sanctions contre Hong Kong et les dirigeants chinois selon la police. Les précisions de Philippe Dova.
Pas moins de 500 policiers ont été mobilisés ce matin à l'heure du laitier pour perquisitionner les locaux du quotidien d'opposition Apple Daily, propriété du milliardaire hongkongais Jimmy Lai, actuellement sous le coup de plusieurs inculpations et en détention provisoire. 5 responsables du tabloïd, dont le rédacteur en chef, le directeur général et le directeur d'exploitation, ont été arrêtés au cours de l'opération et placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés de collusion avec un pays étranger ou avec des éléments externes visant à mettre en danger la sécurité nationale. Notre enquête a révélé et nous avons des preuves très solides que plus de 30 articles en anglais et en chinois, imprimés ou publiés en ligne, demandaient à des pays ou des institutions étrangères d'imposer des sanctions à Hong Kong et à la République populaire de Chine, a ainsi déclaré au cours d'une conférence de presse le commissaire principal Steve Lee. Pour sa part, John Lee, le secrétaire hongkongais à la justice, s'est refusé à préciser articles enfreignaient la loi, ni si les personnes qui les avaient partagés ou simplement avaient acheté l'Apple Daily pouvaient faire l'objet de poursuites. Toujours en vertu de la loi sur la sécurité nationale, la police a gelé 2 millions d'euros d'actifs détenus par Apple Daily. Une première qualifiée de violation gratuite de la liberté de la presse par le syndicat des journalistes du journal Apple Daily. Hong Kong, Philippe Dova pour Radio Vatican.
En Birmanie, dans l'état de Chine, le père Michael Hong Ling, prêtre catholique du diocèse de Hakka, était relâché ce matin sain et sauf. Il avait été violemment interpellé hier par l'armée pour son soutien présumé aux forces de la résistance. Il accueille dans son église de jeunes réfugiés que les militaires ont pris pour des opposants politiques. Toute la communauté catholique de la région, frontalière avec l'Inde, exprime aujourd'hui son soulagement et garantit la poursuite de toutes ses activités humanitaires. À la veille de l'élection présidentielle en Iran, 3 candidats sur les 7 en lice jettent l'éponge, un réformateur et 2 ultra-conservateurs. Le grand favori reste Ebrahim Raisi, le chef de l'autorité judiciaire. Le Conseil des gardiens de la Constitution, organe de contrôle de ce scrutin, a évoqué ce matin une compétition sérieuse en réponse aux critiques selon lesquelles l'invalidation de nombreux candidats renforcerait l'abstention. Ce scrutin se tient dans un contexte de profonde crise économique et sociale dans le pays et alors que se tiennent à Vienne des négociations entre la République islamique et la communauté internationale pour tenter de sauver l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. La profonde crise qui frappe le Liban n'épargne pas l'armée. Les soldats ne sont plus suffisamment payés. Une conférence virtuelle visant à rassembler une aide d'urgence est organisée aujourd'hui à Paris. Elle doit réunir une 20aine de pays ainsi que des représentants des Nations Unies et de l'Union Européenne. À Beyrouth, Paul Khalife.
Dans un pays en pleine déliquescence, frappé par la pire crise socio-économique de son histoire, l'armée est considérée par une majorité de Libanais comme le dernier recours contre un effondrement de l'État qui engendrerait le chaos généralisé. L'armée, comme toutes les autres institutions, est touchée de plein fouet par la faillite de l'État. La solde d'un soldat vaut l'équivalent de 100 dollars, celle d'un officier supérieur 4 fois plus. De nombreuses prestations sociales et médicales ont été suspendues faute de moyens et les rations alimentaires ont été réduites en termes de qualité et de quantité. On l'a compris, l'armée libanaise manque de tout. La conférence de Paris vise à assurer à la troupe des besoins alimentaires, comme du lait et de la farine, des médicaments et des pièces détachées pour la maintenance des matériels. La France, les États-Unis, le Qatar et l'Irak ont déjà fourni en début d'année des rations de survie et d'autres aides pour parer aux plus urgents. Mais cette assistance reste insuffisante pour subvenir aux besoins d'une armée qui compte plus de 60 000 hommes. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
Au lendemain d'un feu vert de Bruxelles à l'Espagne et au Portugal pour leur plan de relance post-Covid, la Commission européenne a approuvé ce jeudi le plan de relance de la Grèce. Il sera financé par l'emprunt commun européen destiné à atténuer l'impact économique de la pandémie, a indiqué depuis Athènes la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui est attendue dans l'après-midi au Danemark. L'Irlande du Nord aura de nouveau un gouvernement. Les unionistes et les républicains se sont mis d'accord sous l'égide de Londres pour maintenir une gouvernance partagée. Paul Givan, du DUP favorable au maintien de l'Ulster au sein du Royaume-Uni, deviendra cet après-midi le nouveau Premier ministre. Michael O'Neill, du Sinn Féin, retrouvant son siège de vice-premier ministre. Les explications de Xavier Sartre.
C'est une histoire de langue qui a permis de débloquer la situation. Le gouvernement britannique s'est engagé à légiférer cet automne pour protéger la langue irlandaise si une telle législation n'était pas adoptée au niveau local. Une condition préalable à tout accord exigé par le Sinn Féin, qui a donc obtenu gain de cause et ouvert la porte à ce dernier accord. Les Nord-Irlandais vont ainsi retrouver un exécutif en mesure de s'occuper de leurs préoccupations comme la santé, le logement, l'éducation et l'emploi, a estimé le ministre britannique en charge du territoire. Ils vont surtout éviter de revivre une crise qui les avait privés de gouvernement pendant 3 ans, entre 2017 et 2020. Le plus dur semblait être passé, mais le Brexit est passé par là. Arlene Foster, première ministre issue du DUP, aux manettes depuis janvier 2020, a préféré en effet quitter ses fonctions fin avril devant la fronde de ses troupes qui lui reprochaient son impuissance face à l'instauration de contrôles douaniers entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. En la matière, son remplaçant, Paul Givan, ne pourra pas faire grand-chose d'autre. Le conflit entre Londres-Bruxelles, dépassant de loin Belfast.
Xavier Sartre. La 21e conférence de l'Alliance contre la traite des personnes, organisée cette semaine par l'OSCE à Vienne, a donné l'occasion aux représentants du Saint-Siège de prononcer 4 discours sur les causes fondamentales de la traite et ses effets. Monseigneur Unbarnczyk a identifié 2 facteurs clés, tous 2 tragiques, la pauvreté avec le chômage et le manque d'opportunités qui en découlent, et un système économique préoccupé uniquement par la maximisation du profit qui sert la cupidité de quelques-uns plutôt que le développement digne de toute l'humanité. Plus d'informations sont à retrouver sur notre site vaticannews.va. Au lendemain de la première rencontre à Genève entre Vladimir Poutine et Joe Biden, la Russie salue l'attitude des États-Unis qui, affirme le Kremlin, reviennent au bon sens. Washington et Moscou font état d'un dialogue constructif, mais bâtir une véritable entente entre les deux pays ayant des objectifs fondamentalement différents sera long, avertit Jean-Sylvestre Montgrenier, chercheur associé à l'Institut Thomas More.
Nous sommes dans une nouvelle guerre froide. On commence enfin à l'admettre, alors que cette guerre froide, ça fait déjà quelques années qu'elle a commencé. Et ce qui a été affiché comme objectif de part et d'autre, avec plus ou moins de sincérité, en tout cas du côté russe, eh bien, c'est de vouloir définir un certain nombre de règles minimales pour éviter l'escalade. La volonté affichée de part et d'autre de reprendre les négociations sur les armements nucléaires, notamment les armements nucléaires stratégiques intercontinentaux. Toute une architecture qui avait été progressivement mise en place depuis les années 70 a été largement endommagée. Théoriquement, si l'on en croit ce qui est sorti de ce sommet, les États-Unis et les Russes et la Russie devraient reprendre le cours des négociations nucléaires stratégiques.
Des propos recueillis par Marine Henriot. Le chercheur Jean-Sylvestre Montgrenier sera demain matin l'invité du dossier de la rédaction. Et puis avant de clore cette édition, sachez que l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est attendu dans l'après-midi à Abidjan. Un retour en Côte d'Ivoire après 10 ans d'absence. C'est la fin de ce journal. Merci de votre écoute. Prochain rendez-vous à 18h. Vous serez en compagnie de Xavier Sartre. Très bel après-midi. Au revoir.